Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Christine au 3921. Bonsoir Christine.
Je peux parler maintenant ?
Pardon ?
Je suis Christine, oui, en effet. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Oui, alors, c'est un petit peu difficile. Je suis un peu émue parce que je ne suis jamais passée sur une station de radio aussi importante que Europe 1.
Il faut un début à tout, Christine. Donc, c'est le début ce soir.
D'accord. Je buvais un petit peu de San Pellegrino pour m'éclaircir la voix en fin de l'eau gazeuse. Ah, je fais de la publicité, peut-être. Oh là là, ça ne va pas.
D'où nous appelez-vous, Christine ?
D'où
nous appelez-vous ? D'où nous appelez-vous ?
J'appelle de Paris.
D'accord.
Précise pas l'arrondissement.
Comme vous voulez.
20e arrondissement.
C'est pour ceux qui habitent le 20e, voilà.
C'est pour ceux qui habitent le 20e, entre Gambetta et Ménilmontant, voilà.
Exactement. Qu'est-ce qui vous amène, Christine ?
Alors, je réagissais parce que là, beaucoup par rapport à une dame la nuit dernière, mais j'ai pas entendu vraiment ce qui était la nature du choc post-traumatique. Parce que moi, j'ai connu ça dans ma vie aussi.
D'accord.
Alors, j'en ai parlé, j'ai eu Florian de votre station qui m'a appelé, vers 21h30 et j'ai parlé de plein de choses et je disais qu'il me semblait que j'allais trop bien actuellement pour passer à l'antenne et puis alors qu'il y a tant de gens qui ont l'air d'aller si mal, quoi.
Non, mais on peut aller bien.
On parle de leurs problèmes.
On peut, comme vous, Christine, aller mieux ou aller très bien et évoquer justement... quelque chose qui a pu se passer, puisque visiblement le stress post-traumatique est quelque chose qui vous est arrivé. Et vous pouvez nous en parler, dans quelles conditions tout ça s'est déroulé et finalement, si ça va mieux aujourd'hui, peut-être nous parler du chemin que vous avez parcouru et puis transmettre peut-être à celles et ceux qui écoutent votre expérience par rapport à ça.
C'est ça, parce que là, moi, comme j'ai précisé à la station tout à l'heure, j'ai 59 ans. Je vis à Paris, cela dit. Et ce que j'ai connu, cette scène-là, s'est passé entre... Je parle d'une scène principalement de violence, parce que j'avais entre 16 et 17 ans.
Oui.
Donc j'essayais de calculer tout à l'heure, parce que je ne suis pas très forte en calcul mental, mais je vois que ça fait plus de 40 ans, voire 42 ans que ça s'est passé, quoi. Et c'est quelque chose d'inoubliable, voire complètement ineffaçable, quoi. Je pense que j'aurai ce souvenir-là jusqu'à mon dernier souffle, voilà. Et il s'est passé que, en fait, mon père a frappé violemment ma mère sous mes yeux.
Oui,
voilà.
Oui. Il avait l'habitude de le faire ou c'était la première fois devant
c'était
vous ?
C'était la première fois. Il l'a fait principalement une fois, quoi. Ça m'a suffi, remarquez, je vais vous dire, mais... parce qu'il aurait peut-être recommencé, mais après, par l'intervention de la police, en fait, il a dû quitter l'appartement de ma mère, quoi.
Mmh. Vous aviez quel âge, en fait, quand c'est arrivé ?
Comment ?
Vous aviez quel âge quand c'est arrivé ?
Entre 16 et 17 ans, je situe.
D'accord.
Oui.
Donc, ça a dû être un véritable choc, oui, de voir autant de violence.
Mmh.
Vous l'avez...
parce que il a commencé par frapper sur une parce qu'il avait énormément de force dans les mains parce que en fait il avait été champion de tir à l'arc. Et
d'accord.
C'est comme ça qu'il avait commencé à boire beaucoup d'alcool, quoi.
Mm-hmm.
Parce que c'était avec des vétérans du tir à l'arc, puis entre deux flèches, eh bien on buvait un coup de rouge, quoi, voilà. Et il a sombré dans l'alcoolisme, mon père. Il avait eu lui-même un choc psychologique à l'adolescence, mais je n'entrerai pas dans le problème de mon père. Je préférerais parler du mien, quoi. Mais voilà, en fait...
Mais il était tombé dans l'alcoolisme, Christine. Vous me disiez, lorsqu'il était sportif de haut niveau ou à l'arrêt,
Il était
en fait.
Quand même très fort au tir à l'arc.
Oui.
Et il avait, d'après ma mère, parce qu'il fallait quand même, comme on dit, je pense que c'est le terme exact, bander un arc.
Mmh.
Et donc, beaucoup de force dans les mains, quoi. Donc, dans cette scène de violence, il a commencé par dire « Je vais... tu vois la poêle, là, qui est suspendue au mur. Je vais la cogner, la poêle, et je vais faire pareil avec ta gueule. » Voilà. Alors, le coup qu'a reçu ma mère, ça a dû être une... Elle a dû beaucoup souffrir, hein, beaucoup, physiquement. Et psychologiquement aussi, bien sûr.
Alors vous, en fait, puisque c'est de ce choc...
Moi, j'ai un peu figé sur place sur mon siège de raconter ça, mais bon, ouais. Je l'ai dit.
Mais lorsque vous l'avez vécu, en fait, ce moment-là, il a, vous parlez de choc post-traumatique, en fait, est-ce à dire que vous avez vécu ce moment-là et ensuite, ce sont... les séquelles sont arrivées ensuite. Comment vous aviez 17 ans,
les séquelles
ans,
sont arrivées ensuite.
Sous quelle forme?
Les séquelles sont arrivées ensuite. Moi, je me souviens du jour. J'ai le souvenir du jour qui a suivi parce que il est arrivé sur le matin. Il avait dû boire toute la nuit. Quoi. Ma mère a dû faire une réflexion qui a déchaîné cette violence en lui. Quoi. C'est ce qui a suscité cette violence. Et ce jour-là, il me semble que j'ai reçu des copines de classe l'après-midi. Mais j'étais comme une pile électrique. Je ne tenais plus en place. Je me souviens que j'étais extrêmement nerveuse ce jour qui a suivi.
Oui.
Il me semble que dans l'après-midi, mes souvenirs sont exacts, je n'ai pas de preuve de ça, mais il me semble que j'ai reçu des copines, 2-3 copines dans ma chambre, et de l'appartement de ma mère. Et je vous dis, je ne tenais plus en place, quoi. Et puis, ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai appris bien plus tard que lorsque on connaît un choc post-traumatique comme ça, de par une infirmière... en addictologie, ou plutôt psychotraumatisme. Elle m'a dit que quand on a connu un choc comme ça dans sa vie, il en ressort toujours un trouble de la personnalité. Ben, chez moi, voilà. Comme j'ai un trouble de la personnalité.
J'allais vous demander ce que vous en pensiez de cette analyse-là. Est-ce que vous avez ressenti, à partir de ce moment-là, que votre personnalité était comme vrillée, qu'il y avait quelque chose qui s'était tordu?
Ouais, j'ai ressenti ça, je pense. J'ai été hospitalisée pour dépression. J'avais entre 24 et 25 ans pendant un mois. Hôpital dans le 20e, là. Et, parce que je suis née dans le 20e. Enfin, j'y habite, mais j'y suis née aussi. On va citer l'hôpital. Je ne vous dis pas l'hôpital, si, non.
Non, mais c'est pas important.
Ah, c'est pas l'hôpital. C'est pas l'hôpital du 20e, peu importe. Bon, peu importe, oui.
Mais vous y étiez pour une dépression, donc.
J'étais pour une dépression. J'ai demandé vraiment, parce que suite à deux deuils dans ma famille, il y a eu un grand-oncle et ma grand-mère paternelle, justement, qui sont décédés à une semaine d'intervalle. Et deux enterrements. Donc, moi, je suis très choquée par tout ce qui est mort, deuil et tout ça. Enfin, comme beaucoup de gens, je suppose. Mais en fait, moi, quand je suis rentrée à Paris de ces enterrements-là, j'ai senti que j'allais plus du tout, quoi. J'étais dans ma chambre, j'ouvrais plus les volets de ma chambre du tout le matin. J'étais complètement... C'était de mes pompes, ça n'allait pas du tout, quoi. Pour parler, manger mon franc-parler.
Et ça s'est traduit comment, ensuite?
Ben, ça s'est traduit par... ensuite, comme l'hospitalisation ou...
Oui, ben, suite à l'hospitalisation, est-ce que il y a eu d'autres choses qui
se sont
déclenchées.
J'ai eu beaucoup d'accès dépressifs dans ma vie. J'ai été diagnostiquée comme dépressive chronique quand même. Et avec toujours des troubles de la personnalité, c'est sûr. Et j'ai passé ma vie à beaucoup, beaucoup déprimée quand même.
Vous avez...
Et avoir une relation très, très bizarre avec la jambe masculine, je veux dire.
C'est-à-dire?
Bah, toujours des relations impossibles, quoi.
Fragile.
Pas tellement concrétisable, quoi. Ou à part deux personnes avec lesquelles j'ai vécu, enfin deux hommes, quoi. Dont un, c'était un petit peu, voire beaucoup mieux que l'autre. Enfin, bon, je me suis pas investie, je me suis jamais mariée, quoi. Et je n'ai jamais eu d'enfant.
Et est-ce que vous reliez cela à ce qui s'est passé ce jour-là, alors que vous aviez 17 ans? Comme si...
Oui.
Oui.
Ben, je relis ça. Je ne sais pas après ce que ma personnalité en a fait. On ne se connaît jamais assez profondément, mais je ne sais pas, moi. Je ne sais pas quoi vous répondre, là. Je suis un peu troublée parce que c'est dur. Et puis, en même temps, comme je suis croyante, j'ai l'impression... Enfin, je suis croyante, je crois en Dieu. C'est un peu bizarre parce que, bon, moi, c'est mon droit à remarquer. J'ai l'impression toujours que je vais remettre mon père dans quelque part son souvenir, quoi. Faire ça. C'est un peu bizarre, vous savez, mon point de vue, là. Ça peut pas être bizarre, mais j'ai toujours, quand je raconte ça, j'ai toujours envie de dire à mon père, je l'aimais malgré tout. Enfin, très choquant ce qu'il a fait, mais j'ai envie de dire toujours paix à ton âme, papa. Mmh.
Mais vous pouvez évoquer cela sans dire que vous en voulez à votre père, que vous reniez
oui,
quoi
voilà.
que ce soit dans l'amour que vous donniez à votre père, et que c'est,
oui.
C'est ce jour-là un épisode entre adultes qui s'est déroulé devant vos yeux, Christine. Mais on va continuer à en parler,
oui.
si vous voulez bien, on va faire une petite pause, et puis on va continuer à l'évoquer ensemble, à tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 22h45 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez commencer ou recommencer à appeler le 39-21. Florian ou Natacha sont là, je les vois. Ils vous attendent et peut-être aurons-nous le plaisir, chers amis, d'échanger ensemble tout à l'heure. Pour l'instant, nous évoquons le stress post-traumatique de Christine qui a 17 ans, voit son père agressé sa mère d'une manière très violente, vous racontiez Christine. À partir de ce moment-là, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vrillait.
Oui.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses comme ça que vous pourriez relier à ce moment-là, une fragilité, je ne sais pas, une addiction, par exemple.
Oui. Une addiction de ma part.
Oui.
Ah oui, je suis devenue addict bien tardivement au tabac après l'âge de 30 ans. J'étais à une rupture avec un monsieur avec lequel j'avais vécu 4 ans. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment pas détesté l'alcool, quoi. Vraiment pas. J'ai mis du temps à me rendre compte que finalement, je devenais dépendante à l'alcool. Je m'en suis rendu compte très tard. Voilà. Mmh.
Cette addiction, en fait.
Ouais,
j'entends...
je m'en suis débarrassée. Actuellement, je bois plus du tout. Hein,
d'accord, bravo.
Depuis, bravo, j'entame mon 10e mois vraiment sans alcool. Vous voyez, c'est quand même relativement récent.
Bravo, super.
J'ai arrêté toute consommation d'alcool du jour au lendemain, mais aidé quand même.
Mmh. Mais c'est énorme.
Le 5 août 2020, voilà. Donc voilà,
bravo,
je ne bois absolument plus d'alcool. Voilà.
Mais
on ne boit pas.
C'est très fort.
Ouais.
C'est très fort.
Ouais, ouais.
Vous pouvez être super fier de vous. J'allais vous demander...
Super
en fait,
fier de moi, je suis très contente de ça. Je
vous dis. Bah oui, vous pouvez. Mais cette fragilité, en fait, dont vous
oui.
parlez, mais vous évoquez, finalement, en premier lieu, vous évoquez la fragilité des relations avec les hommes. Est-ce que cette fragilité,
oui.
en fait, qui vous a mené vers ces addictions, visiblement le tabac, mais surtout l'alcool, Est-ce que cette fragilité avec les hommes, elle découle de ce que vous avez subi là, ce jour-là, à votre avis ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de revenir là-dessus avec, je ne sais pas, votre thérapeute de l'époque ?
Oh, j'ai eu beaucoup de thérapeutes, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'hypersensible. Je me suis découvert une grande force de caractère, parce que je suis capable d'arrêter ceci ou cela, mais bon. Mais je suis hypersensible, voilà. Mais peut-être j'étais étant petite, je pense que c'est ma nature profonde. Je suis une hypersensible, voilà. Légèrement artiste, mais enfin ça fait un peu prétentieux, mais je suis une hypersensible.
Mais est-ce que cette fragilité, cette relation difficile avec les hommes,
oui.
finalement, ça n'était pas la relation difficile de vos parents que vous remettiez
Ah bah certainement que si, bien sûr. J'avais un exemple, comme a dit un psychiatre, le premier que j'ai vu, peut-être après, vraiment en psychothérapie, après cette hospitalisation dans le 20e, m'a dit, je perds le fil, là, m'a dit, et les moins, je perds le fil.
Ah, il vous a sûrement dit que ce que vous aviez vécu...
Il m'a dit que c'était un exemple, ah oui, voilà, il m'a dit l'exemple de vos parents, enfin, l'exemple effrayant de vos parents.
Effrayant, oui.
Seulement effrayant.
Mmh. Oui, parce que c'est ça, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que vous avez sans doute
oui.
été effrayée. Ouais.
Oh, j'ai été effrayée et je pense que j'ai suivi une émission, je ne sais pas trop quoi. C'est un petit peu comme quand quelqu'un se fait, ça fait peut-être fort comme image, mais ça ne m'est jamais arrivé ça par contre, mais comme quand quelqu'un se fait violer par un homme. Il semble que pendant un moment, le cerveau, il se met comme en roue libre, quoi. Il ne réagit plus du tout, quoi. On est là, on assiste impuissant à une scène. Je ne sais pas, j'ai entendu ou lu ça. J'ai plutôt entendu parce qu'à un moment donné, je lisais très peu. Alors, il me semble que le cerveau, pendant un moment, il ne réagit plus, quoi. Comme dans un viol, voilà. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que sur le cerveau, alors là, je ne serais pas calée, je ne suis pas médecin, seulement paramédical, et même les médecins sont très, c'est très humbles devant les mystères du cerveau, mais bon, voilà.
Vous avez subi un choc, donc peut-être que ce que vous décrivez, c'est ce moment où le cerveau se met comme en sécurité, où il,
c'est ça,
où il, oui. Il est comme protégé et ne perçoit plus rien.
Il ne perçoit plus rien, mais c'est surtout un grand sentiment d'impuissance. Mmh. On est là, et puis moi j'étais là dans l'entrée, enfin ma mère habite toujours au même appartement. Alors j'aime pas son appartement, je vais dire, mais bon, je l'aime pas, enfin j'aime pas. Puis c'est agencé à la façon d'une personne. Alors, je sais pas la question, c'est quand même que je n'aime pas cet appartement. Bon, j'hériterai probablement, mais je n'aime pas cet appartement. Et puis j'étais dans l'entrée, puis pétrifiée, je regardais ça, moi. Après, mon père a dû repartir, je sais pas ce que... Et ma mère est quand même allée travailler, quand même.
Votre maman est encore en vie aujourd'hui ?
Oui, alors elle a 83 ans, elle est toujours en vie. Oui.
D'accord. Et est-ce que vous l'avez évoqué ?
Dans le même appartement, mais...
Vous l'avez évoqué avec elle, cet épisode-là ?
Ah oui. Au début, elle ne voulait pas du tout que j'en parle. Elle disait, je ne vois pas, pourquoi tu remules pas assez comme ça ? Et maintenant, elle en parle... On en parle et puis elle en parle à des médecins qui lui posent des questions quelquefois, des généralistes ou autres. Elle en parle quand même. Mmh.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait du bien, à votre avis, de l'évoquer avec elle ?
Oui. Mais au début, elle me disait, mais c'est rien du tout, il m'a juste frappé, moi. Ah bon, tu trouves ? C'est rien du tout, tu trouves ? Elle le banalisait complètement, cet événement.
Mmh. Et vous lui avez dit que ça vous avait fait du mal ?
Ben, je lui ai dit, oui. Uh-huh. Et puis, j'en ai parlé encore récemment, il y a moins d'une semaine, et j'étais en larmes. J'étais en larmes, voilà. Pas là. Avec ma mère, oui, j'étais en larmes. Mmh. Mais pas elle, pas du tout. Pas elle, mais moi, si. Parce qu'elle est très, très, très froide. Ma mère est très costaud de caractère. Elle est froide et spéciale. Elle est très spéciale, ma mère, comme personnalité aussi, il faut dire.
Mmh. On peut voir, en tout cas...
Elle a été très meurtrie par la vie aussi.
On peut voir, en tout cas, à travers ce que vous nous racontez, qu'on évoque souvent, hein, sur cette antenne, les enfants qui sont témoins de scènes violentes.
Oui.
Scènes violentes.
Oui, puis moi, ce qu'il y a, c'est qu'il faisait de la violence verbale avec moi, parce qu'il me rabaissait énormément. Oui, alors qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école ? Tu sais, il y a à faire tes 10 doigts, t'es bonne à rien, avec des trucs comme ça. Avec moi, il faisait une sorte de travail quand même destructeur sur moi, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ce que j'en pense, moi ?
Oui, parce que moi, c'est, il me rabaissait avec des mots. Mmh. Il m'a jamais frappé ni quoi que ce soit, mais par ces mots, il me disait « Oui, alors je vois pas très bien, tu sais rien faire de tes 10 doigts. Mmh. »
Moi, ce que j'en pense,
ce
moi,
soir,
c'est que...
Ce soir, il bricolait à 22h30 avec un marteau, je vois ce qu'il fabriquait. Je lui ai dit « Écoute, demain matin, je vais au lycée. » Alors, il est venu à l'embrasure de ma porte de chambre, il m'a dit « Ouais, de toute façon, il s'est mis à me meurtrir avec des mots, quoi, voilà. Mmh. Tu sais rien faire tes 10 doigts. De toute façon, je me demande ce qu'on t'apprend à l'école et tout ça. Voilà. »
Ce que j'en pense, c'est que vous avez dû aussi être meurtri par ces mots, parce que je suppose que ces mots, ça n'est pas la seule fois qu'il a prononcé des mots blessants à votre encontre. Et puis,
ouais.
Une jeune fille se construit énormément par rapport à l'image du père, c'est très important. Et si ce père passe son temps à lui dire qu'elle est bonne à rien, finalement...
Moi, je l'admirais dans un sens, c'était mon père, évidemment, c'était mon vrai père, cela dit, c'est pas père adoptif ou quoi que ce soit. Il était très beau physiquement, étant jeune, enfin, d'autant plus que moi, que j'étais pas la seule à le trouver beau, mais c'est qu'après, il était devenu très maigre et bon, complètement... abîmé par l'alcool et un tabagisme énorme, quoi. Mmh. Deux à trois paquets de cigarettes par jour, plus beaucoup d'alcool.
Est-ce que vous avez eu l'impression de chercher votre père dans les relations que vous avez eues avec certains hommes après ? En tout cas, de chercher...
Pas tellement, je trouve. Non, pas tellement. Hein. Non, je trouve pas tellement.
D'accord.
J'ai pas l'impression. J'ai connu un monsieur plus âgé, là, un voisin de mon immeuble. Drôle, je voyais pas un... On est sortis un petit peu ensemble, on n'était pas libre. Et puis, je n'ai pas l'impression que je recherchais tellement un père en lui. Quoi. Il se trouvait qu'il était plus âgé de 17 ans par rapport à moi. Mais il avait 17 ans de plus, on va pour mieux m'exprimer, mais c'est drôle, j'ai pas l'impression de rechercher un père en lui hein, du tout. Hein.
Alors, lorsque je vous dis ça, c'est peut-être un peu plus subtil que ça. C'est lorsque vous dites que ça, vous avez eu du mal à concrétiser avec les hommes. C'est rechercher toujours dans le regard des hommes une fierté d'être avec vous. Vous voyez, une reconnaissance, en fait. Et en étant hypersensible, comme vous me l'avez dit aussi, c'est oui. aussi... Mais si cette fierté, vous ne l'aperceviez pas, c'était... Et puis cette quête de se réfléchir dans le regard de l'autre, de se trouver belle dans le regard de l'autre.
Ah oui.
Eh bien, quelque part, c'est la petite fille qui cherche, qui cherchait la reconnaissance du père. Et souvent, en fait, ça continue plus tard, quand on a eu ce genre de relation avec son père, quand on était adolescente surtout. Il arrive souvent qu'on reproduise ce schéma de chercher dans l'homme qu'on aime cette reconnaissance. Et c'est pour ça que je vous posais la question.
Oui, parce qu'une fois, je me demandais je me posais des questions sur mon physique. J'ai posé la question à mon père, je lui ai dit, mais est-ce que tu me trouves, peut-être pas, est-ce que tu me trouves comment physiquement? J'ai dit, je sais plus très bien comment je vais formuler la question, mais peut-être moins de 20 ans. Il m'a répondu, va te voir dans une glace.
Voilà. Il était sympa, dites donc.
Ouais, vachement, comme vous dites.
Ouais.
Drôlement, ouais. Sympa, comme vous dites.
Bah oui, mais je sais pas.
Dans une glace, ça veut tout dire et rien dire du tout. Bah... Ou alors il me disait, imagine-toi, tu sais très bien. Non, ça voulait rien dire, imagine-toi.
C'est quand même...
Il m'imaginait rien du tout, je savais rien très bien du tout non plus.
C'était quand même assez méchant de dire ça, non, vous trouvez pas?
Ben ouais, je trouve que j'étais pas trop mal physiquement, mais enfin bon... Cela dit, ça n'avait aucun sens pour moi, quoi.
Et vous avez douté souvent de vous, justement, du fait que vous soyez attirante, en tout cas que vous...
Ah bah oui, ça a été terrifiant, Les compliments, je les prenais à l'envers, j'avais horreur des compliments. Ah, je sais pas, qu'est-ce que je pouvais être perturbée, c'est incroyable, quoi.
Mais vous n'avez jamais essayé d'avancer sur cette piste-là avec un thérapeute?
Ah bah si, je n'ai fait que ça,
D'accord.
Voir des thérapeutes.
Non mais justement ça, en fait, cette relation que vous aviez avec votre père et finalement que vous aviez avec les hommes ensuite, cette quête de fierté, est-ce que vous avez essayé de la creuser avec vos thérapeutes?
Ben peut-être pas encore, hein, vous savez.
Ben, peut-être ça serait bon d'en parler à un thérapeute, au thérapeute du moment et de lui dire que, lui raconter ce que vous avez vécu avec votre père. Notamment.
J'ai déjà raconté. Mais...
D'accord.
Ouais. Une quête de fierté, vous dites vraiment, ce serait plus.
Quand on demande à son papa comment tu me trouves, est-ce que tu me trouves jolie et qu'il te dit, mais enfin, va te regarder dans une glace, genre, t'es pas terrible, et va regarder dans la glace, comme ça tu pourras constater les dégâts de toi-même, par toi-même, pardon. C'est un peu comme ça qu'il vous le disait.
Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ouais.
Donc, ça ne met pas sur les rails de la confiance, vraiment, hein, quand on est...
La confiance en moi, j'en manquais cruellement, la confiance en moi.
Et puis, ça continue après.
Je
ne
vois pas très bien comment j'aurais pu en avoir.
Non. Mais vous voyez combien...
Entre un père absent qui s'est barré quand même, 8 ans avec sa maîtresse, vraiment, je ne vais pas entrer, je ne vais pas non plus monopoliser l'antenne. Mm-hmm. Parce que bon, ce n'était peut-être pas à moi de décider de tout ça. Bon, moi, je ne sais pas.
L'histoire. En tout cas, c'est très bien d'en avoir parlé ce soir. Peut-être que ça va peut-être vous inspirer.
Oui, ça me tend un peu pour le moment, mais ça va peut-être me détendre.
Mais oui, et puis peut-être que ça va vous inspirer les futurs mots que vous aurez avec votre thérapeute la prochaine fois. En tout cas, je vous félicite de votre courage ce soir pour nous avoir raconté ça. Et puis, je vous félicite aussi de ces 10 mois d'abstinence.
Ça pourra servir à d'autres personnes. Hein?
Ben ouais.
Ah oui, je suis en relation avec les AA, Alcooliques Anonymes, qui sont extraordinaires.
C'est super.
Puis avec ma thérapeute aussi pour l'alcool.
Très bien, Christine. Je vous embrasse, en tout cas, et puis je vous souhaite bon courage.
Merci à vous. Moi aussi, et puis votre émission est magnifique. Je vais continuer à l'écouter, je pense.
Très bien, merci beaucoup.
Elle a lieu en ce moment.
Oui, exactement.
Merci.
Au revoir.
Et bien, merci, docteur. Merci à vous, Olivier.
Merci, au revoir.